Les flâneries au fil des livres d'Antoine Logini, géographe, lecteur passionné. Il nous sert de guide, il nous dévoile à travers ses morceaux choisis de poésie, de littérature, un paysage, un coin de Bretagne ou du Finistère, mais pas seulement. Et cette fois, on va lire le paysage d'hiver. Bonjour Antoine.
Bonjour Véronique.
Alors, tu as deux pays de cœur, donc tu vas nous comparer l'hiver en Bretagne et l'hiver vers des hautes terres du Massif central, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce que là, on retrouve, alors c'est vrai que cette saison, hein, c'est un peu bateau hein,
de parler d'hiver maintenant. Oui, c'est toujours intéressant.
Voilà, et puis on, là, moi qui vis ici, on est heureux, là, cet hiver, on a un vrai hiver breton, avec une succession de coups de vent, de chapelets de dépression qui balaient le ciel, donc quelque chose de puissant. Et c'est vrai que moi, en fait, l'hiver, c'est une saison que j'aime particulièrement, en fait. Que ce soit par ici ou dans les hautes terres, il y a des lumières fantastiques. Et puis, c'est une saison à la fois, elle a deux versants, c'est une saison qui est rude, hein, ça saute. Il y a des passages de grains violents, etc. En montagne, on verra, il y a la neige, il y a la tourmente également, mais c'est aussi une saison qui a un versant très doux, parce que c'est là aussi où on se réfugie justement à l'intérieur, où on prend le temps de vivre.
Le coin du feu.
Voilà, le coin du feu, l'abri des maisons, et ça fait partie. Donc j'ai essayé là de faire un petit voyage hein, par les chemins de l'hiver, à la fois en effet l'hiver en Bretagne, et puis en écho l'hiver toujours sur ces hautes terres du Massif central auquel on avait consacré une émission. Et puis d'aller vers l'idée que l'hiver, ça s'apprivoise aussi, et puis on va terminer par même aller jusqu'à, comme les animaux, la tentation d'hiberner pendant l'hiver.
Voilà. Oui, quelle tentation en effet. Et on va commencer, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on va commencer par la Bretagne, c'est ça?
Mais tout à fait, forcément, on commence par la Bretagne, on est ici, et puis elle est belle, l'hiver, la Bretagne est belle, et l'hiver en Bretagne est superbe, et je démarrerai avec juste quelque chose que j'avais cité lors de la première émission sur les rivages, quelques vers de Georges Perros, hein, qui dans Marine, un de ses poèmes bleus, écrit, je cite hein, simplement, qu'il faut s'enfoncer, se perdre en ce pays, la Bretagne, en connaître toutes les saisons et surtout l'hiver. Car qui n'a pas connu l'hiver d'un homme, d'une femme, d'un pays, en ignore plus de la moitié. Donc voilà, c'est autour de cette idée, en effet. L'hiver est essentiel à connaître, en particulier ici, je pense, et pour y vivre, hein, pour y rester. Et donc là, je vous propose un petit voyage avec trois textes, deux de Michel Lebris et puis un de Jean-Pierre Abraham, pour un peu aborder cet hiver en Bretagne. Alors on va commencer par Michel Lebris, qui a écrit en 96 un livre très connu des Bretons, Un hiver en Bretagne, qui est un livre intéressant parce qu'il parle à la fois de son regard sur la Bretagne dans les années 90, mais également son souvenir, sa mémoire de la Bretagne des années 50, lorsqu'il était enfant en Benmorlet. Et je vais commencer par un texte qui parle d'une grande tempête d'hiver et de la marée de goémons noirs, ce goémon qui est ramené par les tempêtes d'hiver et qui arrive sur la côte. Voilà, c'est un texte assez lyrique, on va voir. Elle s'avance à fleur d'eau, dans un tournoiement de mouettes et de fulmars, glisse sous les vagues en furie telle une ombre, et meurt sur les galets en énorme hoquet, que l'on dirait vomi des entrailles de la mer, roule, s'étale, englue sable et galets d'une épaisse couche sombre que déchiquette déjà des nuées d'oiseaux, et son odeur puissante de ventre en gésine brassée par les bourrasques emplit toute la grève, la grande marée du goémon noir. Un vent couleur de suie laboure la baie en hurlant, tord les vagues gris-verts qu'il crête d'écume sale et cogne à coups de masse le fond de lance de Trégourenne. Les montagnes liquides arrivent du fond de l'horizon dans un grondement d'avalanche, explosent sur les lames de granit et fusent en grandes gerbes d'écume qu'emportent les rafales. Seule, comme indifférente à cette agitation, la purée d'algues sortie du ventre de la mer continue d'avancer en grandes nappes brunâtres, à l'abri très relatif des criques de Tilouzou et Tréhouren. Il n'y a plus personne dehors depuis longtemps. C'était un autre temps, bien sûr, un autre monde, et la grève pour une pareille tempête se serait trouvée noire de monde. Le goémon, autant dire de l'or, le meilleur des engrais enfoui aussitôt que ramassé, ou sinon étalé sur les champs, un cadeau de la mer et du vent, vital pour chacun de nous, complément nécessaire d'un fumier trop rare. Ils arrivaient déjà, les Deufs, les Prigents, les Merciers, silhouettes fantastiques dans le jour gris, hérissés de grands râteaux de bois ou de crocs, enfoncés dans d'énormes cirés qui encuissardent, qui les pieds nus pour plus d'agilité. Yeux froids, visage de pierre, sans un mot échangé, ils guettaient sur la grève le moment de l'attaque et le grondement des vagues paraissait sorti de leur gorge comme une menace. Ils se jetaient tous en avant d'un coup quand s'éteignait le phare de l'île Louette ou sinon à l'étal de pleine mer. C'était chacun pour soi, dès lors, à coups de coude, à coups de croc, dans le ressac, pour se gagner un premier tas, sur les galets, aussitôt marqués d'une pierre, d'un béret, d'un bout de liège. Déjà, ils s'avançaient dans les vagues, le visage cinglé par les poussières d'embrun, lançaient crocs et râteaux le plus loin possible, tiraient au sec leurs charges avec des râles de bûcherons et replongeaient aussitôt dans la mer déchaînée, jusqu'à ce que le reflux oblige à un autre tas, plus bas, aussi âprement disputé. Mais le plus dur était encore à venir. Après l'étal de basse mer, trempé jusqu'aux os, transpercé par le vent, il fallait maintenant remonter ses prises avant que la marée montante ne vienne les reprendre. Et c'est alors que, retombait la frénésie du pillage, chaque geste devenait une souffrance. Vous sentiez vos pieds gelés, vos doigts gourds, le froid vous serrait la poitrine. Les hommes autour de moi s'activaient avec des rictus féroces, les yeux fous, comme hors d'eux-mêmes. La mer arrivait sur eux. Les reins brisés trouvaient un dernier ressaut pour remonter la dernière charge. La marée montait, qui effaçait tout. Ces visages depuis n'ont cessé de me hanter. Et je me souviens des longs soupirs d'Olivier, de ses silences bien des années plus tard, qui ne comprenait même plus comment il avait pu se battre ainsi dans les vagues glacées pendant tant d'hivers.
Et ouais, le Goémon, c'était essentiel. Là, c'est quelle côte bretonne ?
Alors, c'est la baie de Morlaix, en fait. Hein, baie de Morlaix, en effet, là aussi, on récoltait le Goémon pour amender les champs. Voilà. Et alors, il y avait le Goémon. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a ce Goémon d'hiver, et puis un Goémon de printemps aussi, différent, qu'on laissait sécher. Voilà, celui-là, on le mettait directement dans les champs.
Pour
les
et donc, amender. Un travail très physique qu'on ressent.
Voilà, un travail terrible, semble-t-il. Ouais, oui, tout ça. À fait. Et la grande différence entre ce que devient le Goémon aujourd'hui, hein, qu'on sent fortement, hein, sur les côtes, en particulier du côté de la baie d'Audierne, là, il y en a des masses qui sont arrivées ces derniers temps.
Alors, il y a quelques goémoniers encore qui en ramassent, mais enfin, c'est plus de la même façon, c'est sûr. Et donc, Michel Lebrise, qui nous emmène aussi sur l'île de Sein, c'est ça ?
Voilà, mais c'est pas Lebrise, c'est Jean-Pierre Abraham. J'ai voulu faire le lien avec une autre tempête d'hiver par ici, sur l'île de Sein. Alors, Jean-Pierre Abraham a écrit un livre magnifique et un grand classique, qui est Armen, publié en 1967, mais où Jean-Pierre Abraham raconte ses séjours en tant que gardien du phare d'Armen au bout de la chaussée de Sein, en plein large. Là. Et le texte que j'ai choisi n'est pas sur le phare, mais c'est les moments où il fait relâche à terre sur l'île de Sein pendant les tempêtes d'hiver. Et là, on va voir un autre aspect. La sauvagerie est toujours là, mais on voit que les hommes ont une façon d'y résister. Donc Jean-Pierre Abraham. Faut-il raconter ? Faut-il raconter ces nuits folles ? Le vent délirant dans les ruelles et toute la journée la vision de ces murailles liquides, bien plus hautes que l'île, et qui semblaient à la fin devoir nous submerger. Sur le quai nord, les embruns passaient par-dessus les maisons. Au détour des ruelles, on recevait des paquets d'écume sale dans la figure. Aucun bateau dehors. Le soir, tout le monde était ivre. Comment aller dormir ? Les veillées se prolongeaient jusqu'à 4 heures du matin chez l'un, chez l'autre. Tisane de pruneaux, phare, les filles chantaient. Entre les couplets, le grondement tout proche, les volets qui claquent, les folles ruées du vent. Dimanche, à la messe du soir, il y a eu une panne de courant. Le recteur a continué son sermon dans le noir, sa voix dominait les rafales. Après quoi, on fit un bal chez Gritique. On a dansé toute la nuit, sans se reposer une minute, jusqu'à ce que la vieille nous flanque dehors. À 5 heures, nous étions chez Larzin, à faire la queue avec les vieux qui trempent tant qu'ils renversent la moitié de leur premier verre. Nous buvions de la bière et parlions d'appareiller pour Thévenec. Impossible. Il y eut des courses dans les ruelles, des rires, des appels. La grande maison au volet vert sur la route du phare, ça est de tamaris torturés par le vent, leur odeur violente, et toujours cette envie de crier pour épuiser la sauvagerie du cœur. Tout cela à quelques milles d'un continent où une foule de gens comme usés meurent chaque jour mystérieusement. Pour nous, la vie débute à peine. Nos cris sont des premiers cris.
C'est là qu'on voit que la tempête est un produit dopant.
Tout à fait, il y a un côté magnifique dans ça. En effet, la tempête lave là. Alors c'est aussi l'effet, hein. Jean-Pierre Abraham, à ce moment de sa vie, est jeune aussi. Et il y a un élan, il y a une jeunesse là, trouvée dans cette vie avec la tempête qui risque de submerger l'île. Hein.
Ah c'est ça, l'île
tellement
de
basse,
Sein,
ouais, quelques c'est mètres au-dessus des flots.
C'est devenu un problème, ouais. c'est plus seulement des souvenirs, hein. des fous souvenirs de jeunesse là. C'est un avenir un peu sombre pour l'île de Sein, c'est vrai.
Tout à fait. Et donc voilà, et pour terminer sur ces trois textes bretons, je reviens en effet à Michel Lebrise, puisque le personnage essentiel, c'est sans doute la mer, les vagues, mais c'est le vent au-delà. Et un texte toujours dans un hiver en Bretagne qui démarre par « Ici, nous habitons le vent ». Ici, nous habitons le vent. Le premier mouvement au réveil est de passer le nez dehors pour prendre de ses nouvelles. Si les bateaux à leur corps mort pointent le nez vers le large, c'est bon signe. S'ils se tournent vers la terre, mieux vaut rester chez soi. Puis chacun interroge le ciel, entre espoir et anxiété, scrute les nuages, apprécie leur forme et leur course. L'hiver, l'anticyclone des Açores et la zone dépressionnaire d'Islande se disputent le ciel, à peu près au-dessus de nous. Et leur scène de ménage rythme notre existence. Ce que la météo, dans ses bulletins, appelle le régime perturbé d'ouest. Le rivage entre terre et mer se redouble d'un deuxième dans le ciel, que les pluviers et bernages venus de Sibérie nous rappellent chaque jour. La limite du front polaire en hiver s'avance jusqu'ici. Un dernier coup d'œil sur le baromètre, pondéré par la connaissance du coefficient de marée et de l'heure des basses mers, et vous saurez à peu près ce qu'il vous reste à faire. Le vent, tout, digues, haies et murets, s'organise en fonction de ses caprices. Il est tout à la fois la menace et la promesse. Il est celui qui apporte la pluie et celui qui la chasse. Il est la vie. Et chacun ici apprend vite à le respecter, sous peine de graves mécomptes. Pas un gamin qui ne sache les horaires de marée. Et pas un gamin non plus qui ne soit capable de vous déchiffrer un ciel, de suivre l'évolution d'une perturbation, ou de prévoir exactement l'été la bascule de la brise thermique. L'affaire est trop grave, ou se joue trop de vie pour que l'on prenne les choses à la légère. Et les bulletins météo s'écoutent religieusement, que viennent enrichir les 1000 observations accumulées au fil des générations. La connaissance des vents n'est-elle pas le premier lien tissé, presque charnel, avec le lieu où vous vivez? La vie citadine tend de plus en plus à nier le temps, à le vouloir uniformément tempéré, sans bourrasque impromptue. Marin, paysan ou simplement flâneur, ici, il vous faudra de gré ou de force apprendre à vivre avec le vent.
Oui, ça c'est bien vrai. Hein. Et d'ailleurs, c'est perturbant quand on change de région et qu'on essaye d'interpréter ce vent, enfin le vent ou d'autres signes, d'ailleurs les nuages, et oui. On ne sait plus parce qu'en fait, oui, là il va pleuvoir, puis pas du tout.
Tout à fait, et puis c'est même déroutant parfois d'être si peu soumis au vent. Moi qui ai vécu en région grenobloise, alors les vents se sont renforcés ces dernières années, mais la région grenobloise a peu de vent en général. Et donc, en effet, il me manquait quelque chose. Là par contre, on est bien ventilé, aéré très fortement.
On a ce qu'il faut, c'est clair.
Voilà, et c'est vrai que c'est important cette attention à la météo, cette façon de guetter le ciel, de guetter le vent, et qu'on le retrouvera dans la partie qui suit sur les hautes terres du Massif central.
Et nous verrons dans quelques instants s'il y a du vent en Massif central.
I drove you home that autumn day to your mother's house. The paint was old, the dogs were barking. I sat upon the rug. Oh, I think you sometimes of the snow and that Colorado winter. Your eyes were green, your skin was darker than the color of my home. We took a shower in the dark. Your mother wasn't home. Oh, I think you sometimes of the snow and that Colorado winter moon. We watched the sunrise over town from your neighbor's roof. I remember taking photographs in the cul-de-sac. Oh, I think you sometimes of the snow and that Colorado winter moon. Then you headed east and said her name. I read between the lines. I caught a plane to Denver. Your eyes had turned to stone from that cold apartment window. I saw you fade into the
Colorado Blue, avec la voix si particulière d'Alela Dienne. C'est un titre tiré de son album About Farewell, qui date de 2013, et c'est le choix d'Antoine Logini, adhérent de Radio Évasion, avec lequel on vous propose une fois par mois un voyage littéraire en Finistère ou ailleurs. Aujourd'hui, on explore l'hiver dans les textes et dans les terres, On a parcouru l'hiver breton, ses tempêtes, ses grandes marées. Et Antoine, comme tu as longtemps vécu donc, et étudié en plus le Massif central, on va s'enfoncer dans les hautes terres de ce Massif central, c'est ça ?
Tout à fait. Après, Allez la Diane, dont la chanson parle de, je ne le dis pas en anglais, je suis très mauvais, mais de l'hiver bleuté du Colorado. Voilà. Donc c'est une chanson d'hiver aussi. Alors, semble-t-il, c'est lié à une rupture amoureuse. Donc c'est l'hiver amoureux aussi.
L'hiver du cœur.
Voilà, oui. L'hiver du cœur. Alors en effet, on va passer aux hautes terres du Massif central. Du côté de la Margerie, de l'Aubrac, c'est au plateau, autour de 1000 mètres d'altitude. On va retrouver un personnage qu'on a déjà eu, le vent, mais auquel va s'ajouter la neige. Et avec la même question derrière, qui est la façon d'apprivoiser l'hiver, en guettant là aussi la météorologie, ce qu'on vient de voir avec le texte de Michel Lebris. Alors pour ça, d'abord Martin de la Soudière, qui est un ethnologue, mais qui a un côté très littéraire, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui a longtemps fait des terrains d'ethnologie rurale en Margerie, avec énormément d'entretiens sur le quotidien des gens. Donc c'est pas très ancien, c'est pas de l'ethnologie ancienne, ça date des années 90-2000. Et il a un livre qui s'intitule Poétique du village, rencontre en Margeride, où il nous fait vivre la vie au quotidien sur ce haut plateau. Et j'ai choisi trois courts extraits, un, deux autour de ce que l'on redoute et qui nous attire aussi, la neige et le vent, avec ses dangers aussi. Donc voilà, deux courts textes sur la neige en Margeride. Donc Martin de la Soudière, c'est 2010 le livre. La neige joue ici le même rôle que celui de la forêt dans d'autres régions. On peut s'y perdre et ne jamais s'en retourner. Tandis que partout ailleurs en France, elle dit l'enfance, la pureté, Noël, le loisir aussi, elle se fait ici menace, voire hantise. Si elle s'invite sur ces plateaux, c'est bien souvent indûment, route coupée, chemin impraticable, jusqu'à submerger le territoire, l'étouffer. Je veux parler des congères, qui se forment sous l'effet de la tourmente, ce vent du nord sournois et violent, qui accumule la neige au revers du moindre talus et dans le creux des chemins et des sentes. Et en effet, cette tourmente qui ferme les routes, ces congères qui peuvent être très importantes, on sait où elles se forment, mais en effet, le pays va être balayé et fermé. Et donc, en Margeride, il y a une particularité qu'il nous raconte, ce sont les clochers de tourmente. La Margeride, avec ses clochers de tourmente, nous propose une variante sonore, des repères propres à conjurer les peurs. Depuis le début du siècle dernier, on y trouve en effet des villages dotés d'une cloche dite des perdus, des égarés ou encore de secours, surmontant un édifice construit en gros blocs de granit, édifié en plein centre de certains hameaux, que l'on faisait sonner en cas de tempête ou de neige, en cas de tempête de neige ou de bouffade, pour permettre aux voyageurs égarés de se repérer. Tourmente, appelée Essire plus au nord sur le Cézallier, l'Artense et dans le Haut-Cantal, Fournelle dans la partie occidentale du Gévaudan et sur l'Aubrac, Burle enfin ou encore Cyber sur le plateau ardéchois, qui a tout à voir avec les blizzards canadiens et le bourran sibérien. Se levait une brume épaisse ou sévissait une tempête, à plus forte raison si la nuit était tombée, un préposé s'employait de son mieux à faire tinter la cloche, une sorte de service municipal.
Ah oui, pour annoncer le vent.
Pour annoncer le vent et pour surtout avoir un repère sonore, comme en mer, les balises, les bouées, les sifflantes, hurlantes, pour que les gens se repèrent. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que ces neiges, la tourmente, ces vents du nord, moi j'ai expérimenté en Aubrac, lèvent une neige souvent très fine, très poudreuse. Et en fait, on est très vite désorienté, perdu. Et dans les récits traditionnels, il y a beaucoup de récits de personnes qui sont perdues en rentrant au village, mais parfois à quelques dizaines de mètres de leur maison, ne l'ont pas retrouvé, quelques centaines de mètres. Donc il y a vraiment, il y a beaucoup lieu dit dans le Massif central, le col de l'homme mort, les trois sœurs. Il y a beaucoup d'histoires localement de personnes qui sont mortes, perdues dans la tourmente. En fait, ne retrouvant plus, ça efface les pas derrière. On peut marcher et on va perdre la trace, s'efface immédiatement. Voilà.
Comme dans les brumes de mer à marée basse sur certaines plages du Nord Finistère.
Tout à fait, oui. D'accord. Entrée de la Bervrac dans le brouillard, ça peut être ça.
Perdre.
Et donc, en effet, donc, dans l'hiver, dans ces chroniques villageoises, Martin Lassoyer parle beaucoup de cette présence de la météo qu'on va retrouver de façon plus presque dans la maison autour d'un personnage qui est Emma, une ancienne agricultrice avec laquelle il s'est beaucoup entretenu et qui lui a raconté ses saisons. Donc un court texte sur les saisons d'Emma. Saison lente, saison vive. Monotone les journées d'Emma ? Nullement. Ne serait-ce que par la scansion du temps qui donne à son année ses deux visages. Certes, il neige aussi en ville et les paysans ne sont pas les seuls gardiens des saisons. Il n'empêche, ici l'on compte deux saisons, et non pas quatre, deux saisons, l'année divisée en deux versants, automne-hiver, printemps-été, saison creuse, saison pleine, la mauvaise période puis la bonne, fermeture puis ouverture. Pour Emma, fin octobre, fin mars. Et pour Colette, sa bru, rentrer ses abondances ou ses montbéliardes à l'étable autour du 15 novembre, pour les sortir fin avril. Arrivée de Messier-River, comme j'avais pu le lire dans le journal local. Rien ne change fondamentalement pour Emma. Les soucis et les petites joies sont toujours là. Mais il y a une somme de précautions à prendre. Autant de détails qui sont plus que des détails. Se chauffer devient ainsi une occupation centrale. Aller chercher ses bûches à quelques dizaines de mètres au dehors, allumer la cuisinière, pester contre elle, l'entretenir, râler contre le tirage. Et puis parler hiver, se plaindre, regarder encore et encore le thermomètre extérieur, supputer la dégringolade du mercure et l'arrivée de la neige. Expression certes affaiblie de la menace de la nature semblant résumée et réduite à la force du vent et à la couleur des nuages, la météo est ici davantage qu'un sujet de conversation. On peut voir son omniprésence dans les discours comme l'une des manières de dire et de se dire qu'on est d'ici, et pas d'ailleurs, en montagne, et pas dans le midi ou dans la plaine. Et c'est là où je retrouve vraiment, ici, hein, cette attention à la météo. Ici, ça va être plus le vent et la marée, en effet, la force du vent, les vagues. Là, la présence de la neige. Mais pareil, on passe son temps à scruter, on passe son temps à se plaindre aussi. Mais en fait, on est d'une certaine façon très heureux aussi d'avoir cette particularité. Donc voilà.
Tout à fait, c'est l'identité d'un territoire, la météo.
Et deux saisons, ce qu'on a tendance à retrouver. Alors, on en parlait avant le début de l'émission, mais en effet, ici aussi, on nous annonce peut-être une Bretagne qui aurait une saison hivernale avec des sections de tempêtes et des pluies abondantes. Et puis une saison sèche l'été.
Seulement deux
saisons. Voilà, on est peut-être en train d'évoluer. Donc voilà, là on en était un peu à apprivoiser l'hiver avec Emma. Et je voudrais, on va terminer un peu de ce côté, d'apprivoiser l'hiver avec une autrice que j'aime beaucoup, Marie-Hélène Lafont, dont j'avais lu un extrait à propos de Déotère, extrait tiré de L'Annonce, un roman où elle raconte l'arrivée à Fridières, un petit hameau du Haut-Cantal, d'Annette, qui avant vivait dans le Nord, à Bailleul, et qui vient parce qu'elle épouse, avec une rencontre par petite annonce, Paul, un agriculteur qui vit seul, et elle y vient avec son fils. Et là, le texte que je vais vous lire raconte son premier hiver, mais surtout en quoi la présence d'autres, des autres, est importante pendant l'hiver. Et une présence très simple, mais simplement la présence, la proximité des autres. Donc Marie-Hélène Lafont, L'Annonce. Annette s'entendait avec Isabelle, du Jaladis. Cette femme douce et décidée, vaste et volubile, l'enveloppait dans son orbe, lui tenait chaud. Lui avait tenu chaud au plus vif du premier hiver, quand sa mère était rentrée à Bailleul, une semaine avant que ne tombent pendant plusieurs jours des couches de neige homériques, telles que de l'aveu même des oncles, on n'en avait pas vu depuis au moins 30 ans. C'était le baptême de ce pays, de la montagne, de l'hiver, de la vie que les gens se faisaient là, loin de tout, sous le couvert lourd des bâtiments de pierre grise coiffés de bleu. On avait toujours tenu, on tiendrait encore, surtout maintenant avec le chauffage central, la télévision et le congélateur plein. On pouvait pousser la neige avec son ventre, entre novembre et février. On était taillé pour ça. Mieux valait toutefois n'avoir rien connu d'autre, ne rien savoir des douceurs insidieuses des pays plats, ni des émollientes complaisantes des terres basses. Plusieurs fois par ce temps de loup, Isabelle était venue. Elle avait surgi en tracteur du Jaladis, enfouie, reclue, abolie. Gaillarde sur le vieil engin que tout le pays connaissait, elle faisait escale au retour du bourg. Isabelle arrivait, haute et large, se découpait dans la pièce, ôtait en 3 secondes ses bottes de caoutchouc vert, vous embrassait, vous pressait contre elle, vive et preste, toute de chair chaude sous le glacis sévère du froid vaincu, qui autour d'elle lâchait, se retirait, acculait à la douceur. On buvait le café, le gâteau au chocolat d'Annette fondait en bouche, des riens se disaient sur le temps, les enfants, le collège, le quart du ramassage qui passerait partout, tant que Gilles serait au volant, on n'avait rien à craindre, c'était une chance inouïe. Isabelle savait aussi comment était la neige dans les bois, lourde, grasse et dure à la fois. Il y aurait des dégâts, de la casse. C'était trop de poids d'un coup avec le gel prolongé aussitôt après les pierres tombées. Et des nuits à moins 20, et des journées à moins 10 ou moins 12, sans guère de répit pour les arbres. Elle parlait. Elle avait éteint le tracteur en sortant de Baguille sur le plateau, juste avant la descente, pour regarder, avec le soleil, l'étendue des pays noyés. Elle aurait presque eu peur. Elle riait de tant de silence aplati sur tout comme après une catastrophe. Elle riait encore. Regardez Annette. Des hivers comme ça, c'était rare. On en verrait peut-être plus de 10 ou 15 ans. Dans les stations, au Lioran et à Besse, ils se frottaient les mains. Après des années de disette passées à se battre les flancs pour inventer de quoi distraire les touristes. Et pour l'eau, les nappes phréatiques, les réserves, la végétation, c'était bon toute cette neige. Son père le disait assez, qui était né dans une ferme de l'autre côté de Lugarde, plus haut encore, carrément sur le plateau. Rien de tel qu'une bonne couche de neige qui dure, qui reste pour la repousse de l'herbe au printemps. Pas de meilleur engrais. Isabelle du Jaladis racontait, Annette se laissait bercer, hasardait 3 mots ou davantage, saisie de confiance, du temps apprivoisé roulait.
La neige,
La neige.
Et espèce en voie de disparition peut-être aussi. Hein.
Tout à fait. Les hivers sont moins rigoureux sur ces hauts plateaux aussi.
C'est déjà constaté.
Ouais, ouais. Ouais. Et là, ce qui est beau dans Seix, c'est cet apprivoisement de l'hiver par la simple présence de quelqu'un qu'on connaît, qui passe côté très quotidien. On écoute, on parle de tout et de rien. Mais voilà, l'hiver peut se passer comme ça. Et là, on arrive sur le versant plus intérieur de l'hiver. Et alors, un peu en clin d'œil, je voulais justement, sur les dernières cinq minutes qui nous restent, parler de ce voyage intérieur qu'est l'hiver, qui est aussi propice au monde des rêves. Et on aurait parfois presque envie de demeurer au cœur de l'hiver lorsque la vie ralentit, se pose, et jusqu'au rêve de l'hibernation, à la manière de certains animaux, et tout particulièrement de notre frère l'ours. Et alors là, il y a un auteur assez étonnant, relativement peu connu, mais un auteur précieux, Alain Galland, qui vit dans la Creuse, en Limousin, et qui a écrit une série de livres, Louvière, Lourle, qui sont toujours des livres sur la frontière entre l'homme et les animaux, et en particulier les animaux sauvages. Et en 2022, il a publié un livre qui s'appelle Sommeil d'ours, qui est un livre assez drôle parce qu'il raconte comment un homme, c'est le narrateur, il trouve dans une benne aux encombrants, au moment du déménagement de ses voisins, un vieux tapis élimé qui est en fait une peau d'ours sans griffes ni tête. Et dans un élan fraternel, il la recueille. Et en fait, cette présence de la peau d'ours va bousculer son quotidien et réveiller un monde qui sommeille en lui. Et il va y avoir une espèce d'apprivoisement entre l'homme et cette peau d'ours. Et on ne sait plus vraiment, il va faire des rêves étonnants et puis il va rêver d'hiberner, en fait. Donc je vous lis deux passages sur cette tentation de l'hibernation ou de l'hivernage. L'arrivée de l'hiver, depuis que nous avons dû nous séparer de notre vieille maison des bois, m'est devenue de plus en plus déprimante. Il me semble qu'au temps où nous avions encore la grave et que nous vivions entourés d'arbres et de bêtes, je parvenais à lui tenir tête, du moins à repousser ses assauts précoces. J'avais toujours à m'occuper dehors, bûches à fendre et à charger dans la benne du tracteur, jeunes fruitiers à planter, baliveaux à protéger de la dent des cervidés, derniers légumes d'automne à arracher au potager. L'entrée dans la mauvaise saison ne m'atteignait pas de façon aussi brutale que maintenant. Il m'arrive de me sentir là dès la mi-novembre et d'appréhender la longue parenthèse hivernale avec une inquiétude sourde. Sans doute la tombée en âge, les blessures mal cicatrisées de la vie ajoutent-elles à cet état de lassitude et de fatigue que d'aucuns, l'imputant au manque de soleil et de lumière, qualifient de dépression saisonnière. Peut-être conviendrait-il, leur crise venue, de se retirer à l'écart du monde, comme le font bien des animaux hibernants et hivernants, et comme eux, d'attendre patiemment le retour du printemps. Je me posais la question tout à l'heure, en observant la fourrure étalée sur le fauteuil. Et c'est alors que m'est venue l'envie de m'enfouir sous ce pelage et d'hiberner en lui, faire corps avec l'ours et dormir de son mystérieux sommeil. Et plus loin, dans le roman, dernières heures de l'année, la lassitude m'est tombée dessus en milieu d'après-midi, sans que rien, pas même l'échéance du calendrier, ne puisse raisonnablement le justifier. Je me suis retenu. Je me serais volontiers enfoui sous la peau d'ours. J'ai envié la bête, son long sommeil d'hiver. Comme elle, j'aurais voulu laisser le temps filer et se perdre. Au cours de la nuit suivante, le fantôme du dernier ours des Crisons m'est apparu. Il gisait, regard vitreux, sans cailler à l'ourlet des babines, entouré des furieux en armes et de leurs chiens. En vain, j'avais couru à travers bois. J'étais arrivé trop tard pour détourner la meute et permettre à l'ours de fuir. Je me suis réveillé, le souffle court. En dormant, l'ours échappe à l'hiver, à l'épuisante quête de nourriture, à l'errance et à l'impitoyable traque des hommes. Il sauve sa peau. L'Esquimau, lui aussi, dort beaucoup, comme l'ours. Il passe à sommeiller, à somnoler la moitié de son existence. Jean Mallory nous le rappelle dans Les Derniers Rois de Tulé. L'Esquimau doit, il est vrai, résister à 4 mois de nuit polaire et de froid extrême. Il est, notre ethnologue, un grand dépressif. Son mal à la vie est tenace. Un mal qui gagne aussi ses chiens qui hurlent aux ténèbres, demeurent prostrés ou, comme les renards des neiges, tournent sur eux-mêmes jusqu'à l'épuisement et la mort. L'ours brun n'est pas un grand dépressif. Il porte en lui une vieille tristesse, à laquelle, bon an mal an, il s'est accommodé. Passé la Saint-Martin, les arbres dépouillés lui paraissent trop hauts, sous un ciel trop bas. Les fruits de la campagne résonnent étrangement à ses oreilles rondes. Les bruits de la campagne résonnent étrangement à ses oreilles rondes. Les framboises, les airelles, les faines et les glands se raréfient. Alors l'ours ressent lui aussi la lassitude de l'année qui s'achève. Il remonte la sente plus lentement, ses pas lui pèsent. Il hésite, se dresse sur ses pattes arrière, scrute la vallée de ses petits yeux, hume l'air, la venue de l'hiver. Il hausse ses lourdes épaules et mélancolique, il se résigne. Puis il reprend sa marche, plus lourdement, plus lentement encore, cherche encore autour de lui une anfractuosité qu'il a repérée dans la roche, une niche sous un tronc d'arbre abattu par les vents, une cache, une couche pour, plusieurs mois durant, se terrer et se taire. Crachin mêlé de pluie et de neige fondue que le ciel maintenant mouline en farine de métaille, avec une ferveur de meunier à la tâche, fermer la porte, débrancher le téléphone, et comme l'ours, se résigner et dormir en attendant la passée des jours.
Ben voilà, c'est pas mal pour terminer ça.
Finalement. Au programme, pour la suite de l'hiver.